Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée dont voici les titres. Depuis Bruxelles en Belgique, Félix Tshisekedi tend la main à son homologue rwandais Paul Kagame pour qu'ensemble ils fassent la paix des braves, à travailler ensemble, à rapprocher leur peuple et leur communauté pour le développement et le bien-être de celle-ci. La République démocratique du Congo occupe désormais la première place mondiale en matière de pauvreté extrême. Selon un rapport de la Banque mondiale publié hier mercredi, 85,3% des Congolais vivent avec moins de $3 par jour. Selon un rapport du groupe d'intellectuels de la province de la Tchopo, la population de cette entité dit ne pas trouver son compte par rapport aux promesses des campagnes du gouverneur de province auprès des députés provinciaux. Pour en savoir plus, Radio Kapi reçoit les coordonnateurs de cette structure, le professeur Trésor Grisson Kakumbi. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le président congolais Félix Tshisekedi appelle le président rwandais Paul Kagame à faire la paix de braves, à travailler ensemble, à rapprocher leur peuple et leur communauté pour le développement et le bien-être de celle-ci. Cela, dit-il, demande que Paul Kagame donne l'ordre aux troupes du M23 soutenues par le Rwanda d'arrêter l'escalade qui a fait des millions de morts. Il a dit ce jeudi à Bruxelles en Belgique, à la deuxième édition du Global Gateway Forum, un sommet international organisé par l'Union européenne pour discuter de la coopération mondiale sur les infrastructures, les développements durables et la connectivité. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Hirung.
Il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, monsieur le président, à ce que nous fassions la paix des braves. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions. Depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Mais je crois que l'Afrique, aujourd'hui, a besoin de passer à autre chose, monsieur le président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame. Je crois que cet appel est la preuve que la République démocratique du Congo n'est pas belliqueuse. La République démocratique du Congo veut la paix.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, au moins 4 civils ont été tués, 2 blessés et 13 autres disparus durant la période allant du 28 septembre à ce mercredi 8 octobre dans les chefferies de Bwito et Baoundé. C'est respectivement en territoire de Rutshuru et Masisi. Ces personnes sont des victimes collatérales des affrontements récurrents opposant les rebelles AFC M23 aux combattants Wazalendo dans plusieurs villages des deux territoires. Au moins 8 femmes et jeunes filles ont aussi été victimes de viols et plusieurs dizaines de maisons incendiées dans cette zone pendant la même période. Les détails avec vous, Ronéline Tibonera.
Ces bilans concernent particulièrement les groupements de Bukombo, Tongo, Bambo, Mutanda et Kiondo, situés dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, ainsi que les groupements Ufamando Premier, relevant de la chefferie de Baoundé, territoire de Masisi. Plusieurs villages de ces entités sont affectés par la violence consécutive aux affrontements entre l'AFC M23 et les combattants Wazalendo. D'autres localités subissent les représailles attribuées aux rebelles du M23, selon certaines organisations locales de défense des droits humains. Durant une période d'environ 10 jours, entre le 28 septembre et le 8 octobre dernier, au moins 7 accrochages ont été rapportés dans ces zones. En plus de pertes humaines, au moins 70 maisons ont été incendiées, dont l'école primaire de Nyabiteja, située dans le groupement Kiondo. Plusieurs habitations et les centres de santé de Muliki, dans le groupement de Mutanda, ont été pillés et 20 vaches ont été volées. Cette situation a provoqué un afflux de nouveaux déplacés vers les villages de Bambo, Kabizo, Butare, Katsiru, Nyanzale, et Mumba dans la chefferie de Buito, ainsi que vers la cité de Ngungu dans le groupement de Oufamandou Premier. Alors que l'AFC M23 poursuit des opérations de traque contre les Wazalendo ou le présumé FDLR dans ces zones, les Wazalendo y mènent également des attaques asymétriques et sporadiques visant à déstabiliser ces mouvements rebelles. Dans ce contexte, plusieurs organisations insistent sur la nécessité de garantir le respect des droits humains et la protection des civils.
Situation similaire en Ituri. Plusieurs sources font état de 8 personnes tuées mercredi par des miliciens de la Codeco au village de Kalanda situé à une trentaine de kilomètres au nord de Bunia dans le territoire de Djougou. Selon les mêmes sources, les victimes seraient des miliciens de la Convention pour la Révolution populaire, la CRP, de Thomas Lubanga. Mais la société civile de Luvangira affirme, elle, qu'il s'agit des simples agriculteurs qui se rendaient au champ. Elle appelle la justice à ouvrir une enquête afin que les auteurs de ces crimes soient punis. Isaac Remoyope, reportage.
Selon des sources locales, les victimes ont été appréhendées mercredi après-midi par des miliciens de la Codeco. Ces derniers les ont d'abord soumises à un interrogatoire avant de les exécuter, puis de mutiler leur corps. Les images de cette scène macabre, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont suscité l'indignation dans la région. D'après la société civile de Luvangire, les victimes seraient originaires des localités de Chilou, Susudale et Goba. Elle s'est rendue au champ lorsqu'elles sont tombées dans une embuscade tendue par ces hommes armés. La société civile dénonce la passivité des FARDC basés à Luvangire, accusés de ne pas être intervenus pour secourir ces civils. Elle demande l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de ces crimes. De leur côté, les familles réclament la restitution des corps pour organiser des obsèques dignes. Ce vendredi matin, des militaires et certains membres des communautés locales se sont rendus sur les lieux pour récupérer les dépouilles, indiquent des sources local. Toutes nos tentatives pour avoir la réaction de l'armée n'ont pas abouti. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La République démocratique du Congo occupe désormais la première place mondiale en matière de pauvreté extrême. Selon un rapport de la Banque mondiale publié hier mercredi, 85,3% des Congolais vivent avec moins de $3 par jour, soit le taux le plus élevé au monde. Cette proportion dépasse largement la moyenne régionale de 45,5% observée en Afrique subsaharienne, où environ 559 millions de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté. Derrière la RDC figurent des pays comme le Mozambique, le Malawi, le Burundi, la Zambie et la Centrafrique. Alain Irungu-Mushinji.
L'extrême pauvreté reste un défi majeur pour la stabilité sociale et le développement humain dans la région, souligne le rapport. Un contraste frappant avec les richesses naturelles. La RDC, pourtant dotée d'immenses ressources minières, cobalt, cuivre, or, coltan, lithium, peine à transformer cette richesse en développement inclusif. Les revenus issus de l'exploitation minière profitent encore trop peu à la majorité de la population, aggravant les inégalités sociales. En ce qui concerne les causes profondes de la pauvreté, le rapport de la Banque mondiale identifie plusieurs facteurs structurels, notamment la mauvaise gouvernance et la corruption, la faible diversification économique, les conflits armés persistants dans l'Est et un accès limité aux services sociaux de base tels que l'éducation et la santé. Ces obstacles freinent la croissance inclusive et maintiennent des millions de Congolais dans la précarité. L'institution internationale invite les autorités congolaises à accélérer les réformes structurelles, à renforcer la transparence dans la gestion publique et à stimuler les investissements dans les secteurs productifs.
Ici à Kinshasa, le député provincial Aubert Mukanu adresse une question orale avec débat au gouverneur des provinces sur la politique générale du gouvernement provincial. Dans sa démarche, l'élu de Mongafula exige exige des explications notamment sur la diminution des recettes mensuelles de la capitale passée de 5 à 2 millions de dollars, mais aussi sur les manques de transparence dans la perception de taxes d'embarquement et de stationnement à l'aéroport d'Ndjili. En réaction, dans une lettre adressée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce mercredi, le gouverneur Daniel Bumba affirme que toutes les préoccupations soulevées par ces députés touchent essentiellement aux attributions sectorielles relevant des ministres provinciaux concernés. Grâce à Mzat, il nous en dit plus.
À travers sa question orale, le député Obem Mukanu dit attendre des éclaircissements notamment sur la gestion des biens immobiliers urbains et la controverse persistante autour de la relance du marché central de Kinshasa.
En tant que député de terrain, je ne peux rester silencieux face à une gestion opaque des fonds publics, l'absence de plans clairs pour le développement et la gestion des déchets. Nous, en tant qu'élus, nous voulons savoir quel est le sort du programme Kinshasa et Zobonga. Nous attendons que le gouverneur réponde à nos questions. Si le gouverneur ne se présente pas les 16, l'article 190 de notre règlement dit que nul ne peut se soustraire d'une question orale. S'il ne vient pas, les conséquences est que l'article 190 est clair. Ça sera transformé automatiquement à une motion de déchéance.
S'appuyant sur les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur de la ville déclare que la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre des politiques publiques incombe à chaque membre du gouvernement provincial dans son domaine de compétences. Selon Daniel Bumba, je le cite, « Dès lors, pour des raisons de cohérence institutionnelle et d'efficacité dans le traitement de ces questions, il est opportun que celles-ci soient directement adressées aux ministres provinciaux compétents afin de favoriser des échanges plus techniques et précis sur les matières concernées. » Fin de citation.
Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques de la ville de Boma au Congo central. Ils n'ont plus besoin de faire les déplacements de Matadi pour les activités d'import-export. Ceci grâce à l'accostage depuis mardi 7 octobre au port international de Boma du navire dénommé MV Apollos appartenant au concessionnaire Maersk après près de 10 absences. Le maire de Boma, Madame Claudel Mpemba, qui a accueilli ce bateau au port international de Boma en présence de la notabilité de cette entité, salue ce grand retour et indique que cela marque une étape historique pour ces ports longtemps restés inactifs. Cette autorité urbaine a fait savoir que cet accostage est un pas significatif vers la relance optimale des activités portuaires à Boma, tant réclamée par la population. On écoute Claudel Mpemba dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Tout d'abord, je tiens à remercier le membre de la commission que j'avais mise en place, chargée de réfléchir autour de la relance des activités au niveau du port de Boma. Et en date du 8 juillet, nous avons présidé une réunion de l'ordre opérationnel élargie avec Maersk Congo, à travers laquelle Maersk a pris des engagements concrets, notamment son retour. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction et de joie, parce que comme vous le constatez, Maersk a signé son retour, son grand retour à Boma, après plus de 10 ans, je pense. Le navire Maersk n'en accostait plus ici et aujourd'hui nous venons d'assister à ses premiers accostages. Et je rappelle que ce sont des conteneurs vides d'abord parce que nous commençons avec les exportations. Et les opérateurs économiques qui sont bas fleuve et au niveau de Boma ici, désormais, en lieu et place d'aller à Matadi, maintenant c'est au port de Boma. Les conteneurs vides sont là. On commence avec les exportations et c'est un processus maintenant parce que c'est la relance. Et viendra maintenant les imports. Et donc, c'est vraiment de nous féliciter, nous tous. C'est la ville de Boma qui gagne. Nous, nous sommes là pour vraiment l'intérêt général. C'est notre population de Boma qui doit bénéficier.
Rendons-nous au Nord Kivu, où le prix du poisson frais connaît une baisse significative à Kassindi Libiria, commune rurale du territoire de Beni située à 90 km de la ville de Beni à la frontière avec l'Ouganda. Cette diminution résulte d'une réunion bipartite tenue mercredi entre les grossistes ougandais et les détaillants congolais de poissons frais. À l'issue de cette rencontre, le chef local du service de l'économie à Kassindi Libiria a appelé les commerçants congolais à respecter les mesures convenues dans le cadre de la réglementation de prix afin de préserver un climat commercial harmonieux entre les deux pays. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Cette rencontre entre opérateurs économiques congolais et ougandais du secteur du poisson frais intervient à la suite de la stabilité du taux d'échange et des désordres observés dans les transactions à Kassindi Libiria. Elle visait à harmoniser les prix et stabiliser le marché. Une vendeuse de poissons frais témoigne. Nous avions connu une saison où les prix du poisson frais a connu une forte instabilité. Mais après cette réunion, avec nos partenaires économiques ainsi que nos clients, nous allons nous efforcer de stabiliser les prix. Le prix du tilapia, auparavant vendu entre 9 000 francs congolais et 16 13 000 francs congolais est désormais fixé à 3 500 francs congolais ou 4 500 selon la taille du poisson. Une baisse que les commerçants doivent scrupuleusement respecter, souligne Amos Kambale, chef d'antenne du service de l'économie à Kassindi Lubiria.
Les poissons de Ribalgo devaient revenir au moins à 8 000 francs congolais, pas 9 000 francs. Les balcons devaient arriver à 16 000, hein, mais le poisson balcon vient de revenir à 3 500 francs. Balcon précisément à 4 500, donc les balcons à 3 500 et balcon à 4 500. Ce sont les poissons tilapiens. Je vais demander à mes frères de Bénin, de Boutembo, d'observer cette mesure, de suivre les conduites qu'on vient de prendre.
La majorité du poisson consommé à Bénin et Boutembo proviennent majoritairement de l'Ouganda et de la Tanzanie. Bénin, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Lutte contre Ebola dans la province du Kasaï. Le ministre national de la Santé publique, en partance pour Mweka, est arrivé à Kananga hier mercredi. Il fait savoir que son passage au chef-lieu du Kasaï central était de s'assurer de l'organisation de la riposte. Docteur Samuel Roger Kamba réaffirme la détermination du gouvernement central d'en finir avec cette maladie qui sévit dans la zone de santé de Boulapé. Suivez Docteur Samuel Roger Kamba au micro d'André Katende Ngala.
Ça fait un mois et demi que la maladie est en cours. Donc pour l'instant, nous sommes dans la phase aiguë. Donc nous sommes passés par ici pour voir comment est-ce que d'abord c'est ressenti ici, mais surtout pouvoir arriver sur terrain à Boulapé et nous assurer nous-mêmes de l'organisation de la riposte. Mais n'empêche, nous avons répondu rapidement au point que jusqu'à présent, la maladie est contenue dans une seule zone de santé, c'est de Boulapé. On a des alertes de temps en temps dans des zones qui sont à côté. Nous surveillons tous les cas qui ont été en contact avec les malades. Bon, déjà, la maladie n'est pas arrivée au Kasaï central, hein, il faut être très clair. La maladie n'est pas ici, justement grâce à la riposte.
À Kisangani, la justice s'investit pour dissuader les propagateurs de faux bruits dans le phénomène atrophie ou disparition des organes génitaux masculins. Hier, le tribunal de paix de Makiso a condamné un homme à un an de prison ferme. Il s'agit de Michel Baelongandi, reconnu coupable d'avoir accusé publiquement Bernard Dipo, agent de la RTNC Kisangani, d'être l'un des acteurs de cette pratique qui consiste à faire disparaître les sexes. Au terme d'un procès en flagrance, Michel Baelongandi a été conduit immédiatement à la prison centrale. Rappelons que, selon le vice-gouverneur de province, les bilans provisoires depuis le début de ces phénomènes fait état de 17 morts dans la province de la Tchopo.
Actualité internationale.
Peu d'observateurs internationaux seront déployés au Cameroun pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Le réseau des organisations de gestion des élections en Afrique centrale, Rogeac, dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, doit déployer une mission sur le plan national. Les organisations de la société civile s'organisent comme elles peuvent, avec moins de moyens et de soutien financier de la part des partenaires internationaux, alors que 31 000 bureaux de vote doivent ouvrir dimanche, selon l'organe en charge du scrutin.
L'invité.
La population de la Tchopo exprime sa préoccupation par rapport à la gouvernance provinciale. Selon un rapport du groupe d'intellectuels de la province de la Tchopo, remis lundi dernier au président de l'Assemblée provinciale, la population de cette entité dit ne pas trouver son compte par rapport aux promesses de campagne du gouverneur des provinces auprès des députés provinciaux. Cette enquête a été menée entre janvier et mars 2025. Pour en savoir plus, les coordonnateurs de cette structure, le professeur Trésor Grison Kakumbi, répondent aux questions de Jacques Moukonkole.
Professeur Grison Kakumbi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Pouvez-vous nous dire le but de cette enquête citoyenne sur la gouvernance provinciale?
Le but de cette enquête, les scientifiques se sont réveillés pour imaginer aussi combien ils peuvent contribuer dans la gestion de la chose publique. Et de ce fait, ils se sont concertés pour dégager, n'est-ce pas, une ligne de conduite afin d'enquêter sur la gouvernance de la province de la Tchopo. Voilà pourquoi notre souci majeur était de savoir ce que la population qui est supposée être le premier bénéficiaire de la gestion attend ou comprend, découvre de la gestion de la province.
quelles sont les principales failles ou forces que vous avez relevées dans la gestion actuelle de la province?
Nous ne relevons pas de failles ou de faiblesses. Nous avons posé des indicateurs d'enquête, parmi lesquels, primo, la gouvernance de la province. Dans la gouvernance, il est question justement de situer qu'est-ce qu'a été le programme du gouvernement, les différents axes. Secundo, la qualité des infrastructures. Hormis l'apport du gouvernement central qui est suffisamment louable parce que de manière ostentatoire, il n'est secret pour personne, le gouvernement central matérialise justement ses promesses sur les infrastructures routières. Depuis que le chef de l'État nous l'a promis, toute la ville ici c'est des chantiers et le lancement des travaux pour ce qui revient au gouvernement central. Mais la population attend. Qu'est-ce qui revient au gouvernement provincial par rapport aux infrastructures routières, aux infrastructures scolaires, aux infrastructures sanitaires et à l'électricité, à l'eau? Alors, en étant sur le terrain, la population a dégagé justement une inquiétude. Ce qui est sur la gouvernance, 99% pratiquement de la population a trouvé justement que non, la gestion de la province traduit, n'est-ce pas, un malaise criant parce que la population a du mal à situer quelle est la part de la province par rapport au gouvernement central.
Donc nous pouvons dire, professeur, qu'il y a un écart entre la loi ou les promesses et la réalité sur le terrain.
Exactement, parce que en prenant le pouvoir, le gouverneur de province a signé des engagements auprès de députés durant sa campagne électorale. Le peuple attend voir quelles sont ces recommandations-là, de ces engagements-là, qui sont déjà faites dans les territoires de Bassoko, à Ubundu, à Isangi ou à Yaouma. Où en sommes-nous avec la centrale photovoltaïque ici? Où? Mini barrage dans chaque territoire, nous sommes où? Pourquoi les chantiers lancés dans certains territoires, dont à Opala, à Ubundu, traînent encore les pas et rien ne fait? Le gouvernement provincial est totalement invisible sur le plan de réalisation au regard de ce que nous avons découvert sur le terrain avec grand étonnement.
Quelle méthode avez-vous utilisée pour récolter les données sur le terrain?
Nous avons utilisé deux types de méthodes, la méthode quantitative et la méthode qualitative. Et dans la méthode quantitative, nous avons procédé au questionnaire d'enquête. Et il y a également ce qu'on peut appeler d'observation libre. On a pris un échantillon de 5000 enquêtés dans sept territoires, en plus la ville de Kisangani. On a fait recours notamment à des cobocolettes qui nous ont aidés par rapport à certaines enquêtes avec des questions fermées. Mais aussi, dans le débat ouvert, on a fait recours justement à d'autres méthodes justement de dialogue. Et ce qui est encore curieux, c'est que à la fin, on a essayé d'analyser les données en faisant recours à d'autres techniques.
Professeur Grison, est-ce que ce rapport formule des recommandations pour améliorer la gouvernance provinciale?
Oui, comme c'est le peuple qui a donné le pouvoir aux élus, aux députés, le même peuple rappelle aux députés provinciaux de faire leur travail en répondant à la mission salvatrice, notamment du côté législation, mais même quand ils légifèrent, parce qu'ils ont produit des édits au profit de la population, pourquoi ces édits ne sont pas d'application? Ils ont la tâche de contrôler, de faire les suivis. Donc, la recommandation principale, c'est les contrôles sévères qui ne signifient pas l'acharnement, mais plutôt viser à ce que l'on comprenne qu'est-ce qui profite à la population, qu'est-ce qui ne marche pas et comment il faut imaginer pour changer les choses.
Comment le président de l'Assemblée provinciale a réagi à ce rapport?
Il s'est montré très hospitalier à notre endroit. Avec toute humilité, il a accueilli d'abord ce rapport et il a tenté, illico presto, de nous rassurer qu'il va mettre à la disposition de son bureau, des présidents des commissions parlementaires, y compris des élus, notre document. En raison des déficits de communication, le président de l'Assemblée a rassuré que désormais, il faut qu'ils échangent de manière directe avec la population afin de corriger certaines erreurs.
Professeur Grison Kakoumbi, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'est aussi la fin de notre grande édition du journal parlé de la mi-journée qui a connu la coordination d'Élisée Chikota Chivueta, la supervision d'Alain Irung, Pierre Diassinois, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la radio de la paix.